Bonjour Martin.
Bonjour Marie-Hélène.
Là, tu m'arrives avec quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je me suis déjà posé la question.
Oui.
Je me disais, si on utilisait certains gratte-ciels, les fenêtres de certains gratte-ciels pour produire de l'énergie solaire, ça ferait des miracles.
Une énorme différence.
Mais là, il y a des gens qui y ont pensé avant moi, j'imagine, non, mais je m'étais fait la réflexion.
Oui, on y a pensé depuis un certain temps, mais on a un problème aussi d'esthétique, si on veut, hein, parce que faut aussi qu'on ait quand même des fenêtres qui sont intéressantes d'un point de vue architectural, sinon les architectes les utiliseront pas, ils vont trouver que leur immeuble est laid.
Il faut que les gens à l'intérieur voient autre chose qu'un gros panneau aussi.
C'est ça, on s'entend. Et aussi, il faut atteindre un certain niveau d'efficacité. Il faut que ça vaille la peine. Il faut que le rendement soit intéressant. Alors, pour mettre les gens en contexte, présentement, la technologie de panneaux solaires, ce sont les fameux panneaux opaques à base de silicone là, qui ont un taux d'efficacité d'environ 25 %. Donc, on est capable de transformer environ 25 % de l'énergie solaire qui touche ces panneaux-là en énergie électrique qu'on peut utiliser. Donc, c'est un...
C'est encore pas très esthétique, là.
Non, on s'entend que c'est pas...
Je vais le dire, là. Moi, les gens qui le font, là, tu sais, j'en vois des fois à la campagne, puis je leur lève mon chapeau parce que je me dis, ces gens-là, ils ont un peu défait une partie de leur maison par souci écologique
et
économique. Là, mais
tout à fait. Ouais. Puis ça, c'est la technologie qu'on a présentement. Il y a un autre type de panneaux qui sont des panneaux en pérovskite. Ça, c'est le terme scientifique de la chose. Qui ont un niveau qui ont un niveau d'efficacité un peu en bas de celui du silicone. Donc, on est à 22 % au lieu de 25 %. Donc, le maximum théorique, si on veut. Mais l'avantage de ces panneaux-là, c'est qu'on est capable d'en modifier la recette chimique pour permettre à ces panneaux-là d'absorber plus un certain type de lumière plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille beaucoup parce que c'est des panneaux qui sont plus polyvalents, si on veut. C'est un matériau qui est plus polyvalent. Alors là, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on aimerait être capable d'avoir des fenêtres qui sont transparentes, mais qui sont quand même capables d'absorber une partie de l'énergie qui nous vient du soleil pour avoir un effet intéressant au niveau de l'alimentation électrique du gratte-ciel ou de la maison, par exemple. Ça, c'est vraiment l'objectif, hein? Donc là, c'est là qu'on veut aller. Alors, on parle de quoi? Bon, on parle d'utiliser les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges, donc la lumière qui est invisible pour nous, pour être capable de générer assez d'électricité pour faire fonctionner certains éléments dans le gratte-ciel. Et là, il y a 3-4 approches présentement. On ne sait pas laquelle va gagner, mais il y en a 3-4 présentement, donc c'est encourageant. Il n'y a pas une seule solution, mais il y en a plusieurs et... C'est un peu une course entre ces différentes solutions-là pour savoir laquelle va gagner.
Est-ce qu'il y en a une qui se démarque?
Pour le moment, non. Mais peut-être que la solution, c'est toutes les solutions, finalement. Parce que peut-être qu'il y a des situations où la solution A va être meilleure que la B, puis dans d'autres solutions, ça va être l'inverse. Puis si on en a plusieurs, ben, tant mieux, on aura plus de chances. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On en est où? Eh bien, tout d'abord, on a développé des panneaux qui sont transparents, donc vraiment comme une fenêtre normale, mais qui sont quand même capables d'utiliser le passage des rayons ultraviolets ou infrarouges pour générer un certain rendement. Et ce rendement-là, pour le moment, il est à moins de 1 %, donc c'est pas mal moins efficace que le silicone ou les autres technologies, mais avec un rendement qui pense être capable d'augmenter jusqu'à 4 ou 5 %, ils vont être capables de couper l'air climatisé beaucoup, parce qu'on pourrait, par exemple, être capable d'utiliser cette énergie-là simplement pour changer la teinte des fenêtres selon le degré de luminosité extérieure.
Donc, il y a moins de soleil qui entre à l'intérieur.
Voilà, et on rend toute la gestion de la température à l'intérieur de l'immeuble plus efficace. Donc, l'air climatisé n'est pas obligé de rouler 100 % du temps pendant l'été. Donc, déjà là, ça pourrait être le fun. Et si on a un rendement de 4 ou 5 % on pourrait utiliser cette énergie-là pour faire fonctionner, pour alimenter toute la climatisation et tout l'éclairage d'un immeuble. C'est déjà un élément intéressant.
C'est des économies substantielles aussi pour les entreprises.
Vraiment. Donc, c'est déjà très, très utile. Il y a d'autres types de technologies quand même qui, elles, vont se concentrer sur les rayons infrarouges, qui pourraient nous donner, comme l'infrarouge génère ou s'accompagne de plus d'énergie, mais là, on pourrait penser même avoir des panneaux solaires à 20 %, mais qui seraient quand même transparents. Donc, on n'aurait pas d'impact sur nous, le fait de vivre dans ces immeubles-là. Et ainsi, on pourrait carrément avoir quelque chose de très efficace au point de vue énergétique. Il y a même une technologie avec des micro-particules qui sont intéressantes intégrés dans le verre, qui réagissent aux rayons infrarouges ou ultraviolets et qui vont émettre de la lumière comme celle du soleil vers les cadres de la fenêtre, là où on aurait des bandes de panneaux solaires un peu comme ceux qu'on a traditionnellement, mm-hmm. mais dans le cadre, ça gêne pas, la fenêtre est transparente, c'est le cadre qui permet de générer l'énergie. Donc tout ça s'en vient pour bientôt, il y a plusieurs technologies
ça.
Vraiment qui s'en
viennent. Ça sent le bientôt là. Moi j'ai pas l'impression mal. Que dans les prochaines années, on pourrait avoir des oui. premiers buildings.
Absolument, parce que là vois-tu, on est dans des rendements de 1%, quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, on pense à augmenter le rendement à 3, 4, 5%, même 20% dans certaines technologies. Ça veut dire que ça s'en vient pas mal.
Ah,
puis
ben ça, c'est une bonne
les
nouvelle.
Architectes vont dire, ouais, finalement, mon immeuble sera peut-être pas si laid que ça, donc ouais, tant mieux.
Ouais. Hein? Ben, tout le monde est gagnant.
Exactement.
Bon, Martin, là, tu m'inquiètes un peu. Tu vas nous parler d'un débat qui a eu lieu entre des humains et des machines intelligentes.
Ouais.
Dis-moi que l'humain a gagné. Là.
Oui, mais pas tout le temps.
Oh,
c'est pas ça que tu voulais entendre.
Non, mais là, c'est parce qu'on parle d'un débat. Là, ça veut dire qu'il y avait avec un argumentaire.
Absolument. Oh. Donc, créer un argumentaire et avec le public qui ne savait pas s'il était en train d'entendre l'argumentaire d'une machine ou d'un humain. Donc, on réussissait quand même à camoufler qui...
Ça me fascine.
Et les gens devaient voter pour le meilleur débatteur.
Sans donc, savoir qui débattait.
Exactement.
Là.
Ils ne savaient pas. Et ce qui est intéressant, là, on parle ici d'une filiale de Google, c'est leur projet d'intelligence artificielle qui s'appelle Project Debater, donc carrément créer une machine capable de débattre en utilisant les habiletés nécessaires qu'on utilise chez l'humain pour débattre. Pour être un bon orateur, ça prend quoi? Ça prend du raisonnement, de la rhétorique, de l'argumentation, même de l'humour. Il faut manier tout ça pour créer un discours intéressant.
Mais tu ne me diras pas qu'une machine a de l'humour, là?
Eh bien, oui.
Ah, ben non, mais...
Écoute. Ben oui. En fait, ils ont utilisé... Premièrement, ils utilisent ce qu'on pourrait dire la piste principale de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on lui fournit le plus de données possible. C'est pas, on pense pas qu'à long terme, ça va être la façon de faire, mais pour le moment, c'est la façon qu'on connaît. On envoie beaucoup de données pour permettre à la machine d'apprendre. Et on utilise aussi une technologie de création de discours qui est révolutionnaire. Donc, avec une énorme banque de données, plus une technologie qui écrit de façon autonome des discours, ben là, tu as une machine qui est capable de produire un argumentaire. Et là, ils ont fait ça sur deux soirs au bureau de la compagnie en question à San Francisco. Et un soir sur deux, c'est la machine qui a gagné. Donc,
c'était quoi le thème? Est-ce qu'on sait c'était quoi les sujets qui étaient abordés?
Non, on ne le mentionne pas dans la nouvelle.
Ça aurait pu être l'environnement
ou
politique.
Exactement. Évidemment, on n'a pas ici une victoire aussi décisive que lorsque le Deep Blue, le premier, si on veut, logiciel, ou la première machine à essayer de se mesurer un humain en 97. Dans ce cas-là, c'était aux échecs, Deep Blue. Donc, Deep Blue avait battu Kasparov, le grand maître des échecs, de façon même décisive, malheureusement.
Mais Martin, moi, je peux comprendre quand c'est... Tu sais, quand c'est sur une base de connaissances ou quand il y a un jeu, mais que l'ordinateur, que la machine qui est devant nous ait une réflexion, amène un point de vue, une opinion de l'humour, je sais pas comment ça se passe. J'arrive pas à saisir. Là.
Ben, en fait, l'intelligence artificielle, la base même de l'intelligence artificielle, c'est on a des machines qui sont capables d'apprendre. Et là, ils peuvent apprendre de deux manières. Soit on leur montre comment, soit ils apprennent par eux-mêmes en faisant des essais-erreurs puis en faisant des milliers, des milliers, des milliers d'essais pour devenir à chaque fois de meilleur en meilleur, essentiellement. Et dans ce cas-là, on est vraiment au niveau de la rédaction d'un discours. À chaque fois, l'intelligence artificielle, elle est extrêmement spécialisée. On n'en a pas une machine présentement qui va être capable à la fois d'être le meilleur aux échecs, le meilleur au jeu de Go, de pouvoir débattre si, de pouvoir reconnaître toutes sortes d'images dans une photo ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'est une utilisation quand même qui est spécialisée. Donc ici, c'était ça l'utilisation spécialisée, créer des discours qui pouvaient être aussi convaincants, sinon plus convaincants qu'un discours créé par un cerveau humain sur le fly comme ça à côté. C'était vraiment ça l'utilité. Faut pas avoir peur de ça. Moi, je pense pas qu'il faut avoir peur de ça parce que, ultimement, là, le cerveau humain est extraordinaire, mais il y a certaines limites. Et l'intelligence artificielle peut nous permettre de créer des choses qu'on a... on pourrait même pas imaginer, par exemple, créer de nouveaux médicaments parce qu'on n'avait jamais envisagé aller dans telle ou telle direction. Dans ce cas-ci, avec des machines qui sont capables de produire un argumentaire, ça pourrait aider à la prise de décision humaine éventuellement. Et ça, c'est intéressant. Ça devient comme des conseillers, si on veut.
La préoccupation, elle est dans la survie de l'humain.
Je le sais.
Puis, je pense, par exemple, à ma fille. Là, la génération après, là, elle s'en va étudier en journalisme.
Ouais.
Donc, elle se bâtit des opinions, elle va commenter, elle veut faire de l'argumentaire.
Oui, oui.
Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que dans 10 ans, peut-être que le travail des journalistes va être remplacé, dans 50 ans.
Pas, en fait, pas nécessairement. Il y avait une conférence qui est extrêmement intéressante par Yoshua Bengio au Festival Eureka au Vieux-Port de Montréal récemment. Et il nous parlait que, bien entendu, il va avoir un impact social de la prévalence de cette intelligence artificielle-là. Mais l'impact social ne sera pas égal dans toutes les sphères de la société. Et là où il y a beaucoup plus d'interactions humaines, là où il y a plus des éléments où il y a plus de psychologie, et ainsi de suite, ça, c'est des éléments qui devraient durer plus longtemps, si on veut. Là. Ils vont être pas mal plus difficiles à remplacer que des tâches qui sont peut-être plus techniques, par exemple l'analyse d'images. Donc, il va falloir, comme société, qu'on se penche là-dessus puis qu'on aide ceux qui sont plus concernés que d'autres parce que leur sphère d'activité va être plus durement touchée. Mais donc ça va devoir amener à un débat de société pour savoir comment on aide ceux qui sont plus touchés puis comment en même temps on ne se prive pas de cette technologie-là qui a un potentiel illimité.
Mais dans toute nouvelle technologie, là, tu sais, il y a du pour et du contre, mais il faut vivre avec et avancer. Donc, tu me dis que nos jobs ne sont pas menacés pour le moment,
Non, je pense pas.
On revient la semaine prochaine?
Je pense pas. Okay. Ah ben oui!
Salut, merci
si
beaucoup.
On parle un peu bizarre la semaine prochaine, vous saurez pourquoi.
Bye.
Salut.